Bonjour à chacun. Nous avons lu tout à l'heure Tite au chapitre 3 et je vous invite à y revenir, à voir le texte biblique sous les yeux. Une épître où des églises sur l'île de Crète ont besoin que des choses soient réglées. De mettre en ordre ce qui reste à régler. Et Paul confie ce travail pastoral à Tite, un travail exigeant, travail pas toujours simple, comme Jean-Denis nous l'a expliqué dimanche dernier. Pas toujours simple parce que ces Crétois devenus chrétiens, comme nous-mêmes, sont empreints de leur culture d'origine, une culture qui a des forces, bonnes choses, mais qui a aussi des défauts, des travers bien ancrés. Et celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, nous l'avons vu, devient ici un Crétois chrétien, pour nous un Français chrétien, ou un Malgache chrétien. Et le Seigneur veut continuer de travailler notre vie pour que nous devenions des chrétiens crétois, des chrétiens français, des chrétiens malgaches, des chrétiens, ce que vous voulez, chrétiens avant tout. C'est-à-dire quelqu'un dont la ligne de vie s'accroche à la citoyenneté du ciel. Il est citoyen du ciel avant tout. Et Jésus-Christ est son roi. Il n'obéit plus à la culture ambiante dans laquelle il a été élevé, dans laquelle il continue de vivre, qu'il a façonné. Il n'y obéit plus dans les choses qui viennent en contradiction avec Dieu. Pour le reste, il n'y a pas de souci. Ce qui, dans la culture, ne vient pas en contradiction, eh bien, le Seigneur n'a pas de problème avec ça. C'est cette belle diversité que nous trouvons dans la création elle-même, une diversité dans la nature, dans les animaux, une diversité chez les gens, chez les êtres humains, une diversité que nous trouvons au cœur même de Dieu. Alors, dans ce chapitre 3, il y a un terme qui revient à 4 reprises. C'est l'expression les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres. Nous le trouvons dès le verset 1. Alors on va regarder un petit peu les versets qui en parlent. Tite 3, verset 1. Rappelle-leur d'être prêt à toute bonne œuvre. Prêt à toute bonne œuvre. Ils avaient besoin qu'on le leur rappelle. Est-ce que, depuis que je suis un Français chrétien, je suis prêt à toute bonne œuvre, comme Christ qui était prêt à toute bonne œuvre, et être ainsi un chrétien français, avant tout. Parce que comme mon Seigneur, comme mon roi, prêt à toute bonne œuvre. Passant en tout lieu et faisant du bien, est-il dit de Jésus. Alors, prêt à toute bonne œuvre. Nous continuons en trouvant la deuxième expression des bonnes œuvres au verset 8. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Il y a une insistance. Hein? S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous trouvons une troisième occurrence de ces bonnes œuvres dans un aspect un peu pratique, un peu concret. C'est au verset 14. Après avoir dit que il y a un certain enseignant biblique, un enseignant biblique, un docteur de la loi qui s'appelle Zénas et qui voyage avec Apollos d'ailleurs, un nom qu'on connaît mieux, deux voyageurs pour le Seigneur. Et il est dit aux églises, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas et d'Apollos, en sorte qu'il ne leur manque rien. Et c'est le verset 14 qui nous dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est sans produire de fruits. Et s'il l'est, eh bien c'est une situation anormale. Si je suis sans produire de fruits, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur est rentré dans ma vie. Et nous le voyons au verset 5. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et c'est dans ce verset que nous trouvons la quatrième expression relative aux œuvres. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui est dit là ? Il dit que le Seigneur m'a sauvé, c'est-à-dire qu'il m'a donné la vie éternelle, non pas parce que je le vaux bien, non pas parce que je le mérite, non pas parce que je suis quelqu'un de suffisamment correct. Il dit que ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. L'expression des œuvres de justice, ça veut dire des œuvres qui sont justes, qui sont bien, qui sont correctes. C'est quelqu'un qui se conduit bien, qui fait des efforts. Il dit, mais c'est pas sur cette base-là que Dieu sauve l'être humain. Dieu ne prend pas un être humain en disant, toi, je t'emmène avec moi dans ma vie éternelle, je t'emmène avec toi, moi, parce que je vois que toi, tu es quelqu'un qui marche bien. Toi, tu es quelqu'un de bien. Toi, tu es quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, tous ses efforts pour avoir une vie bonne et correcte. Toi, c'est bon, tu peux aller avec moi dans la vie éternelle. Pas du tout. Pas du tout. Il dit non. Non. C'est pas du tout ça. Au verset 3, il dit, de quoi il nous a sauvés ? Au verset 3, il dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Ça, ce sont les gens que le Seigneur va sauver. Le Seigneur ne vient pas donner la vie éternelle à des gens soi-disant qui ont une vie correcte et bonne, qui estiment correcte et bonne. il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Le Seigneur ne sauve pas des bonnes gens, il sauve des pécheurs. Les bonnes gens, de toute façon, ça n'existe que dans leur imagination. C'est ce que Jésus disait à quelqu'un qui s'approche de lui et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ben, Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon, Dieu. Ne commence pas sur le terrain. Toi, tu es quelqu'un de bien. » Jésus dit « Attention, sur ce terrain-là, il n'y en a qu'un seul, qui profondément est bon, qui profondément est saint, qui profondément est parfait, il n'y a que Dieu. Et Dieu s'est fait homme. Il s'est appelé Jésus. Et il était sans péché parfait, un seul et bon Dieu. Mais tous les autres, dont je fais partie, on est pourris. On est pourri. Et on peut le contester, on peut dire non, quand même pas si pourri que ça, c'est quand même pas si mal, c'est quand même correct. C'est comme ma cloison de salle de bain. Je ne devais pas la changer. Seulement quand ils ont enlevé un peu les carreaux qu'il y avait dessus, quand ils ont voulu accrocher solidement la structure du WC suspendu, on s'est aperçu qu'elle était complètement moisie. Je suis arrivé, il y avait de cloison. J'ai été la voir dans le jardin, effectivement, l'intérieur était plein de moisissures. C'est exactement comme ça que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être on a un vernis, peut-être on arrive à avoir une vie socialement correct aux yeux des uns des autres, on est à peu près vrai. Ouais. Mais quand on creuse, quand on regarde le dedans, les mauvaises pensées. Les pensées de haine, de mépris, de colère, de jalousie, de sexualité, les convoitises et les voluptés. Quand on regarde le dedans, Dieu n'a pas besoin d'y regarder très longtemps pour y voir le moisi. Et nous, c'est difficile pour nous de l'admettre. Et Jésus a été confronté à des tas de gens qui ne l'admettaient pas, qui se voyaient comme des bonnes gens, comme des gens corrects et même comme des gens pieux. Et qui donc estimaient que comme ils étaient des croyants en Dieu, oui, moi je crois, et qu'ils menaient une vie correcte, ça leur donnait le droit, ils méritaient, ils gagnaient finalement la faveur de Dieu et de dire, ben ouais, moi je serai au ciel avec Dieu, tu sais pourquoi? Ben parce que je suis quelqu'un de correct, hein, grâce à Dieu. Hein. Non. Il dit, il nous a sauvés, verset 5, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous savez, quand quelqu'un vous fait miséricorde, c'est vraiment qui. Il passe par-dessus les torts que vous avez, par-dessus le mal que vous avez fait, et s'il ne vous traîne pas en justice, c'est simplement parce qu'il use de miséricorde, de pardon, et vous n'avez pas mérité ce pardon, cette miséricorde. Seigneur nous a sauvés en raison de sa miséricorde à lui, et pas du tout en raison du fait que nous sommes des gens plutôt corrects. Et nous avons profondément besoin de chasser l'idée, ou de chasser parfois, je dirais, les restes d'idées, que nous sommes quand même des gens pas si mal. À chaque fois qu'en tant que chrétien, je pense de moi-même que je suis quelqu'un de pas si mal quand même, moralement, je suis quand même pas si mal, eh bien le Seigneur ne peut pas faire grand-chose avec moi. Il va être obligé de me reprendre, il va être obligé de me rappeler. Il dit non. Alors, des bonnes œuvres. Seigneur dit, voilà, je veux que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ce n'est pas avant qu'il faut les faire. On ne fait pas les bonnes œuvres pour gagner le ciel. On ne fait pas des bonnes œuvres pour dire, bon, mais maintenant, puisque je suis plein de bonnes œuvres, le Seigneur va me donner mon salaire, il va me faire entrer dans la vie éternelle, je le mérite. Et non, non, les bonnes œuvres que tu peux faire, elles sont moisies. Mais par contre, moi, je te sauve, je te pardonne pour que tu changes de vie, pour que tu changes de comportement, pour que tu changes de pensée et que ça se voit à l'extérieur. Pour que tu pratiques des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dit-il à la fin du verset 8. Alors comment ? Eh bien, le fait que le Seigneur nous sauve ne s'arrête pas au fait qu'il nous pardonne. Ça ne s'arrête pas au fait qu'il nous a fait miséricorde. Oui, il nous fait miséricorde. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, il nous a sauvés selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance. La régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, c'est une nouvelle génétique. On entend un petit peu cette racine, ce radical dans le mot régénération, les gènes, la génération, la génétique. C'est une nouvelle nature, c'est une nouvelle naissance. Voilà pourquoi dans la Bible, celui qui se réconcilie avec Dieu, on dit qu'il est né de nouveau. Il est passé par la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il te faut naître de nouveau. Hein. Il te faut une nouvelle nature. Ton ancienne nature, ta nature pécheresse d'être humain. Non, les bonnes œuvres que j'ai en vue pour toi, ça, c'est inaccessible. Ça ne va pas coller. Ça sera toujours moisi dans le cœur. Ça sera moisi. Mais par contre, je peux te donner une nouvelle identité, une nouvelle nature. Je vais te régénérer. Te donner une nouvelle génétique en moi, la génétique du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous voyons, par exemple, en Colossiens 3. Prenez avec moi Colossiens 3. Et il y a bien d'autres passages dans les Écritures qui nous parlent de ce nouvel homme. Colossiens 3, nous voyons qu'il y a une nouvelle manière de se comporter et de vivre. il y a l'ancienne avec notre première nature pécheresse, et puis il y a la nouvelle manière de vivre qui découle d'une nouvelle identité. Alors, par exemple, au verset 9, puis même avant, au verset 7, puis même avant, au verset 5, hein, il dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et toute cette manière ancienne de vivre. » Il dit, verset 7, « C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant. » Renoncez à toutes ces choses. Mettez-les de côté, vous avez la capacité de les mettre de côté dans votre vie. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Ne mentez pas, verset 9, les uns aux autres. Comment ? La suite du verset nous dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Tiens le mot œuvre. Le vieil homme et ses œuvres. Et le verset 10 nous dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle selon l'image de celui qu'il a créé, c'est-à-dire selon l'image de Dieu, cet homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de Dieu. Alors, lorsqu'en tant qu'être humain, je me rends compte que je suis perdu dans mes péchés, que je suis moisi de l'intérieur, coupé de mon Créateur, je viens vers lui et je dis, je te demande pardon, je veux prendre un nouveau départ, je veux marcher d'une autre manière dans ma vie, je veux me reconnecter avec toi, mais pour ça j'ai besoin que tu me transformes. Et on sent qu'on a besoin d'une transformation profonde de l'intérieur. Le Seigneur lui dit, eh bien, j'ai tout accompli, j'ai tout prévu pour toi. J'accepte la repentance que tu exprimes. Je te pardonne parce que j'ai moi-même payé pour toi en mourant sur la croix. Tes péchés sont pardonnés parce que quelqu'un a payé pour toi. Viens et deviens mon enfant. Et à ce moment-là, le Seigneur nous sauve par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous donne à ce moment-là, immédiatement, un nouvel homme, une nouvelle identité. Il crée en nous une nature qui est connectée avec lui. Une nature qui se connecte à la source de Dieu et à sa sainteté. Une nature qui a envie des choses qui plaisent à Dieu. Une nature qui comprend la pensée de Dieu. Et nous avons donc ce processus dans lequel entrer, où il nous dit maintenant, tu dépouilles le vieil homme, tu déposes ton vieil homme et ses œuvres, et tu te revêts, tu t'habilles de ton nouvel homme. Et devant chaque tentation, devant chaque situation, eh bien, je peux mettre de côté le vieil homme et sa manière vilaine de réagir, et je peux revêtir l'homme nouveau. J'ai cette possibilité que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, je peux vivre autrement, je peux me comporter autrement, parce que le Seigneur m'a donné un nouvel homme qui se renouvelle. Alors, en revêtant ce nouvel homme dans l'Épître aux Colossiens, Le verset 12 nous dit ainsi, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » On se revêt du caractère de Dieu, du caractère lié à cette nouvelle identité, cette nouvelle personne que Dieu a créée en nous. Il dit « Revêtez-vous de l'amour » au verset 14. Se revêtir. La deuxième chose que nous voyons en Tite, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous allons en Romains. En Romains 12, pour comprendre ce renouvellement. En Romains 12, au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors ça, on comprend bien dans l'épître de Tite, parce qu'il s'adresse à des Crétois en leur disant « Oh là là, vous avez besoin de rompre avec les mauvaises choses de votre culture. » Un de vos poètes a dit « Crétois, ventre paresseux, méchante bête. » N'est-ce pas ? J'ai plus en tête, mais il dit « Ce proverbe est vrai. » Il faut arrêter. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, on vit dans un monde, on vit dans une société, on vit dans un univers, dans une communauté, dans une culture. Et il y a des mauvaises choses dedans. Et le Seigneur nous dit, il ne va pas falloir que ça vous façonne, que ça vous moule. Hein, c'est un moule. Ne vous laissez pas mouler par votre environnement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot est même encore plus fort, il dit « soyez métamorphosés ». Ça, c'est le mot grec. Soyez métamorphosés. La métamorphose, c'est ce qui se passe entre la chenille et le papillon. Il y a une métamorphose. On se dit, mais comment c'est possible de passer de l'un à l'autre ? Métamorphose. Il dit, mais le Saint-Esprit va vous métamorphoser. Oh ! Quand on regarde de près le papillon, on retrouve quand même le corps de la chenille, oui ou non ? Plus ou moins. Hein, on retrouve le... Et en même temps, on ne le retrouve pas tant que ça. Enfin, c'est... Il y a des ailes qui sont venues, des antennes qui ont poussé, il y a des magnifiques couleurs qui sont apparues. Ah, on se dit que ce n'est plus le même animal et en même temps c'est toujours le même. C'est exactement ce que Dieu fait avec celui qui confie sa vie à Jésus-Christ et qui est métamorphosé par le Saint-Esprit. Amen. Une métamorphose. Alors il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, c'est vrai que dans votre culture, dans votre lieu de vie, vous avez besoin d'y voir clair. On n'y voit pas toujours clair. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui en fait est destructeur ou pas, qu'est-ce qui est un piège ou qui ne l'est pas. Est-ce que telle émission de télévision est neutre ou est-ce qu'elle est nocive ? Ben on a besoin d'un renouvellement, d'être éclairé, d'un renouvellement d'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu ? Si Dieu est là avec moi, il me dirait quoi si je regarde telle émission ? Est-ce qu'il me dirait, écoute, c'est plutôt nocif ? Dans ce que ça te met dans le cerveau, c'est plutôt nocif, ça. Ou est-ce qu'il dirait, ben écoute, ouais, non, ça va bien. pour savoir si c'est bon, agréable et parfait. J'ai besoin que dans ma tête, dans ce que je comprends, eh bien, il faut que je sois éclairé. Il faut que ça se renouvelle. Pourquoi se renouveler ? Mais parce que lorsque le Seigneur nous sauve, on a notre mode de vie auquel on est habitué, et puisqu'on y est habitué, on trouve qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ma manière de vivre, telle émission que je regarde, telle ceci que je fais, comment je me comporte, ben, il n'y a pas de souci. S'il y avait un souci, je ne le ferais pas. Oui. Peut-être qu'il y a un souci que je ne vois pas. Je ne le vois pas parce que tout le monde le fait comme ça. Mais le Seigneur va me permettre maintenant d'y voir clair. Il va me donner un nouveau regard. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est ce renouvellement qu'opère le Saint-Esprit dans mon intelligence qui me transforme. Je comprends, je perçois les choses. Je perçois les choses mauvaises et nocives que je ne voyais pas avant. Avant, je ne voyais pas le mal. Maintenant, le Saint-Esprit me rend sensible. Il me dit, mais tu le vois le mal maintenant ? Ah ben ouais, dis donc, je ne le voyais pas avant, mais maintenant que tu me le dis, maintenant que tu me le montres, maintenant que tu m'éclaires, maintenant que tu me renouvelles, ben ouais. Ben oui, maintenant, je vois que effectivement c'est pas selon ta volonté. Pas une bonne chose. Alors je vais l'écarter de ma vie. Et voilà comment le Seigneur nous transforme, nous métamorphose, nous sauve. Les bonnes œuvres. Désormais, ces bonnes œuvres, nous pouvons les vivre, nous pouvons les accomplir. Pourquoi ? D'abord parce que le renouvellement du Saint-Esprit nous permet de comprendre, de porter un regard sur les choses qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, un meilleur regard qu'autrefois. Alors je peux réellement entrevoir quelles sont les bonnes œuvres. Et puis j'ai la capacité de les pratiquer parce que j'ai une nouvelle identité. Un homme nouveau, créé selon Dieu et qui peut donc faire ce qui est bien. Alors ça ne veut pas dire que c'est automatique. D'ailleurs, si Paul envoie Tite faire un peu du ménage, régler ce qui reste à régler dans les églises de l'île de Crète, c'est parce que les Crétois qui sont devenus chrétiens ont encore du chemin à faire. Dans les bonnes œuvres à pratiquer, ben il est obligé de leur dire rappelle. Il dit, je veux que tu affirmes ces choses et que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Peut-être parce que les Crétois ne s'y appliquaient pas. Par exemple, il leur rappelle d'être soumis aux magistrats, aux autorités et d'obéir. Peut-être que les Crétois avaient un problème avec l'autorité. Peut-être que c'était un peu comme des Français qui n'aiment pas trop les règles, qui n'aiment pas trop l'autorité, qui n'aiment pas trop les chefs et qui sont tout le temps en train de contester l'autorité et la hiérarchie. C'est culturel. Et d'ailleurs, ça venait dans l'Église, puisqu'au chapitre 2, Tite qui doit dire des choses qui ne plaisent pas toujours. Dans l'Église, le pasteur doit dire des choses qui ne caressent pas toujours les gens dans le sens du poil, mais il lui dit, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, c'est chapitre 2, verset 15, c'est le dernier verset, juste avant ce qu'on vient de lire. Que personne ne te méprise. Il sait très bien que être dans ce rôle d'autorité, au milieu des Crétois, qui n'aiment pas trop l'autorité, ça va faire peut-être grincer des dents, on va le mépriser, peut-être qu'il va hésiter à user de cette autorité. Il dit non, c'est nécessaire, tu le fais. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Voilà une première chose à changer. On la souligne parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous devons rouler à 80. C'est dur. Pour moi, c'est dur. Et là, je mesure combien je suis crétois. On peut contester, hein. On peut dire, je vois pas l'intérêt de rouler à 80. On peut en débattre. Mais à un moment, la loi est votée. C'est pas, est-ce que c'est une loi qui est contre la volonté de Dieu? Ben non. Hein. Les seuls cas où le chrétien est appelé à ne pas obéir aux lois d'un pays, c'est qu'elles sont très clairement en opposition, en contradiction avec la loi de Dieu. Et à ce moment-là, les disciples ont dit, il vaut mieux obéir, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Mais je n'ai vu nulle part dans la parole qu'il fallait que ne pas descendre en dessous de 90. Donc, c'est une loi. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Et c'est un exemple, mais combien nous avons besoin de prendre conscience que ça fait partie de ces bonnes œuvres, ce bien agir, y compris dans le fait d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Alors pourquoi ça? En fait, on va le lier au verset 2 aussi. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. On dit, tiens, mais pourquoi y a-t-il besoin d'une exhortation à la modération, au calme, au pacifisme, à la douceur? Eh bien, regardez le tableau du verset 3. Parce que nous sommes confrontés à des gens énervants. Et il est obligé de leur rappeler, parce qu'il dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Il dit oui, c'est vrai que dans votre quotidien, vous êtes confronté à des gens insensés, à des gens dignes d'être haïs, à des gens vivant dans la méchanceté. Oui. Il dit, et puis surtout, maintenant que vous êtes devenu chrétien, vous vous en rendez compte. Avant, vous vous en rendiez pas compte, vous viviez de la même manière. Mais maintenant que le Saint-Esprit travaille dans votre vie et vous fait voir les choses qui ne conviennent pas, les manières de parler qui sont nocives, les manières de se comporter qui sont destructrices, ben oui, vous avez un regard beaucoup plus affûté. Et ce qui fait que vous avez de plus en plus de mal à supporter les gens qui se conduisent comme ça autour de vous. Est-ce que ce n'est pas vrai pour nous? Est-ce qu'on n'a pas du mal à supporter les gens si on lit ce verset 3 est-ce qu'on a parfois affaire à des gens insensés, c'est-à-dire qui ce qu'ils font et ce qu'ils disent n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, c'est stupide, ça n'a ni queue ni tête, Et peut-être c'est votre patron. Ah oui, ça, ça pose un problème. Et ça, ça pose un problème. Hein. Est-ce que on a affaire à des gens désobéissants? Oui. Des gens qui ne respectent pas les règles, qui enfreignent les lois. Et quand on le voit, ça nous irrite. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont asservis à toute espèce de convoitise et de volupté? Oui. Qui vivent dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs ou qui haïssent les autres? Oui. Comment est-ce qu'on aurait envie de réagir? En les attrapant par la peau du cou, en les secouant un bon coup, en leur disant ce qu'on pense. Moi je vais lui dire ces vérités-là. Tu vas voir. Ça va pas traîner. Eh bien, il dit pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, y compris ceux qui sont vraiment à l'image du verset 3. Il leur dit, mais vous avez oublié que à bien des égards, vous étiez aussi moisis que ceux qui vous énervent. Rappelez-vous du moisi qui était le vôtre dans votre être intérieur. C'est le même moisi qui vous insupporte aujourd'hui chez eux, qui vous énerve, qui vous fait réagir. C'est ce moisi-là dont le Seigneur vous a pardonné. Amen. Et il dit, et la bonne manière d'être dans les relations, ça ne va pas être de leur rentrer dedans, ça ne va pas être de leur faire la révolution, ça va être d'être pacifique, modéré et plein de douceur. Et ça va aussi avec les magistrats et les autorités. Lorsque nous avons des autorités équilibrées, justes, on trouve toujours moyen de ne pas y obéir, mais il y a bien des pays, aujourd'hui, ou dans l'histoire passée, où les autorités, en plus, laissent à désirer. Corruption, une balance, pour toi c'est oui, pour toi c'est non. Mais pourquoi c'est comme ça? Et là, on dit, on va faire la révolution. Nous, nous sommes citoyens du ciel. Alors, quand on est citoyen du ciel, les autorités terrestres, elles n'ont plus rien à nous dire. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu es citoyen du ciel que ça te permet de te soustraire aux autorités terrestres. Et dans l'Épître aux Romains, le Seigneur rappelle que toute autorité civile a été instituée de Dieu. Et dit, il y a un impôt à payer, tu payes ton impôt. Oui, mais il n'est pas juste. Tu as un impôt à payer, tu payes ton impôt. Il y a une loi, tu respectes la loi. Sauf, lorsque nous l'avons dit, ça va très clairement contre un ordre moral de Dieu qu'on nous demande d'enfreindre. D'accord ? Voilà une bonne œuvre. Une bonne œuvre, c'est de vivre en étant dans nos relations et surtout à l'égard des personnes qui nous feraient sortir de nos gonds. ou qui nous choquent, dont la manière de vivre, on a envie de dire quelque chose, d'avoir des mots méchants. Et par exemple, hein, je le cite, mais comment réagissions-nous dans notre société lorsque nous voyons des personnes homosexuelles? Toute notre société est très, très méprisante et même méchante, hein, à les pourchasser, à leur taper dessus. Enfin, s'il y a eu des lois qui ont été votées, c'est quand même pas pour rien, hein. C'est pour faire rempart à la méchanceté du cœur humain à l'égard de ses congénères, c'est tout. C'est une réalité. Face à quelqu'un qui vit dans toute espèce de convoitise et de volupté, comment est-ce que doit réagir le chrétien? Ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. Et c'est comme ça qu'on gagne les gens au Seigneur. Amen. Alors, attachons-nous à pratiquer des bonnes œuvres. Pour cela, soyons d'abord certains que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Si nous tâchons de pratiquer des bonnes œuvres alors qu'on n'est pas encore réconcilié avec Dieu, alors qu'on ne lui a pas encore donné nos péchés, alors il n'a pas créé en nous un être, un nouvel homme. Il n'y a pas encore le renouvellement du Saint-Esprit. Et on va marcher à côté de nos pompes. Mais si j'ai cru en Dieu, que je suis passé par la repentance, que j'ai invité Jésus à être le guide, le berger, le Seigneur de ma vie, alors je ne dois pas en rester là. Si je suis un chrétien qui est sans produire de fruits, fin du verset 14, ce n'est pas normal. Et je dois donc apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Ailleurs, le Seigneur nous dit qu'il a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alors que nous puissions vraiment nous attacher aux choses utiles et bonnes, y compris dans notre société, dans l'ancrage de notre société, c'est le verset 8. S'applique à pratiquer de bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il y a des bonnes choses à faire dans notre société, de la part de Dieu, non pas par humanisme, mais parce que le Seigneur, on est les mains du Seigneur, et le Seigneur veut manifester sa miséricorde, sa bonté et son amour à toutes ses créatures au travers de nos mains. Amen. Prions. Seigneur, que nous puissions réfléchir à nos vies ce matin, comme tu as invité les chrétiens de l'île de Crète à le faire. Oui, j'ai cru en Dieu, ok. Oui, j'ai été sauvé. Oui, j'ai été régénéré. Et oui, il y a le Saint-Esprit qui renouvelle ma compréhension des choses. Mais Seigneur, est-ce que je reste sans produire de fruits? Et tu me dis, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Seigneur, est-ce que pour moi, je m'y applique, je m'en soucie, je m'en préoccupe? Est-ce que pour moi, Seigneur, concrètement, faire les bonnes œuvres que tu me demandes de faire, que tu prépares pour moi, est-ce que c'est un souci que j'ai chaque jour? Est-ce que c'est une préoccupation? Et est-ce que je me couche le soir, Seigneur, en sachant que j'ai répondu présent pour les bonnes œuvres de la journée que tu m'avais préparée pour moi. Seigneur, parmi ces bonnes œuvres, voulons te demander de nous aider en particulier dans notre attitude, dans notre relationnel, à être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes et en particulier envers les personnes qui vont nous faire bondir, qui vont nous faire réagir, qui vont nous choquer, qu'on aurait envie de juger, de condamner, d'houspiller. Seigneur, tu nous demandes de ne pas agir ainsi, mais d'être modéré et de manifester de la douceur avec ton amour. Alors aide-nous à cela. Montre-nous toujours plus de bonnes œuvres et que nous puissions produire du fruit. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que ta miséricorde est venue remplir nos vies. Et Seigneur, aide-nous surtout à ne pas nous prendre pour quelqu'un. Aide-nous à nous souvenir que tu ne nous as pas sauvés parce qu'on est des gens corrects ou quoi que ce soit. Absolument pas. Aide-nous à nous rappeler que le même moisi qui nous irrite chez certaines personnes autour de nous, c'est ce moisi dont tu nous as sauvés à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies. Nous étions autrefois de telles personnes. Mais tu nous as lavés, tu nous as régénérés. Merci pour cela. Et c'est ton sang qui fait cela. C'est toi qui le fais. C'est toi qui en as payé le prix. Et nous voulons te louer au nom de Jésus. Amen.